Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol?
Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie.
Vous savez, c'est un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
Au fond, il y a des mots en péril comme il y a des châteaux en péril et vous êtes partis à leur secours.
Donc on n'est pas de la région, ça c'est déjà un point. On n'est pas d'un milieu agricole, c'est un deuxième point. Et puis en plus, bon, on ne vit pas comme tout le monde. Et maintenant, est-ce qu'il faut changer profondément ce qu'on est pour être intégré? C'est aussi bête, quoi, parce que... En plus, je crois qu'à la campagne, les gens sont souvent très clairvoyants et ils n'aiment pas non plus que quelqu'un joue à être autre chose que ce qu'il est.
C'est complètement aberrant, quand même, de payer un billet, de prendre le métro, d'aller loin, souvent, de payer ta place pour t'asseoir... en sachant très bien qu'on va te mentir pendant une heure et demie, c'est ça. On va te mentir, on va te raconter une histoire.
Quand on va chez le producteur, si les produits ne sont pas sous plastique, s'il y a une variété raisonnable de produits, etc., ce sont des signaux qui vont nous indiquer qu'il y a une certaine authenticité recherchée. On ne nous raconte pas des histoires.
Chipoter, il reste bien 3 ou 4 crêperies authentiques dans le quartier Montparnasse. Mais la plus ancienne, c'est celle-ci, c'est Tijos. Et elle cultive toujours la véritable passion du sarrasin.
Le soir, vous faites toujours les galettes.
Exact.
Depuis combien de temps vous les faites?
Ici, je les fais depuis au moins 20 ans.
20 ans. Oui. Alors, est-ce que c'est les mêmes galettes aujourd'hui qu'il y a 20 ans?
J'espère que ce sont encore les mêmes. J'essaye de les faire comme on les fait en Bretagne.
Forcément, dans l'authenticité, il y a un côté régressif, hein, il y a un côté un peu vintage aussi, un peu nostalgique, bien évidemment, dans l'authenticité, comme si l'authenticité n'était pas contemporaine. Quand on parle de cuisine, ça veut dire qu'avant, si on parlait de cuisine authentique, on allait parler de pot-au-feu, on allait parler de kick-à-farce si on est en Bretagne, on allait parler de la charcuterie parisienne, etc. Donc, de recettes des années 1900, 1950, les plats de nos grands-mères, les plats revisités de nos grands-mères, les légumes oubliés, etc. Donc, ça a été tout un discours qui a été mis en œuvre dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est confronté à la réalité. Et donc, la qualité de la matière première, donc ici les produits, mais ça va aussi impacter, quand on est dans la cuisine aussi, par exemple, le contenant. C'est-à-dire qu'on va aussi manger dans une belle assiette en céramique qui va être faite par un artisan, et ça aussi, c'est un signe d'authenticité. On va manger avec un couteau, avec un manche en bois de Nontron, et pas un couteau en plastique. Et ça va aussi, en fait, faire entrer ce plat dans une dimension authentique.
La tomate, elle ne peut pas être bonne, d'où qu'elle arrive, c'est pas la saison, c'est pas possible. Alors évidemment, ce sont des tomates qui arrivent de Hollande ou qui arrivent de Belgique, qui sont des tomates qui poussent sous serre, ça n'a pas de goût ça, mais ça n'a pas de goût ça. Alors moi je dis, monsieur de la pomme de pin, puisque c'est comme ça que vous vous appelez, si vous faisiez un jour une magnifique surprise à vos clients, que vous essayiez de trouver du vrai bon pain, parce que ça... C'est vrai que c'est du pain, mais c'est quand même pas du pain fait par un boulanger, il n'y a pas tant de pousses, le pétrissage doit être limité, tout ça, c'est mal cuit. Alors, un jour, dans tous vos magasins, vous imaginez, un jour, vous faites la surprise à vos 15 000 clients du bon pain.
En tout cas, dans ma discipline sociologie et marketing, il y a un phénomène de ce qu'on appelle de gastro-anomie, c'est-à-dire de perte de repères alimentaires dans notre société, qui est le fruit de plusieurs évolutions. Une première qui va être la succession de grandes crises sanitaires tout au cours du XXe siècle. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, notre alimentation est beaucoup plus sûre qu'elle ne l'a jamais été, et pourtant, on a peur de ce que l'on mange. Par ailleurs, il y a une individualisation de la société qui fait qu'on perd un peu nos repères tout au long de la vie, les repères liés à la saisonnalité aussi, où à l'époque, il y avait des fêtes paysannes qui permettaient de réintroduire les produits qui arrivaient au fur et à mesure que la nature évoluait. Et maintenant, pour pouvoir reproduire ça, quand on est déraciné, entre guillemets, de la culture nourricière, eh bien, il faut l'intellectualiser, parce qu'il faut l'apprendre. Et donc, pour répondre à ça, il faut réconforter les gens, il faut les replonger dans un environnement qui les rassure. Et donc, c'est là qu'on va déployer des stratégies de mise en avant d'une certaine authenticité.
Vous savez, folklore, c'est devenu une chose tellement difficile. C'est-à-dire que tout le monde connaît, tout le monde utilise le mot folklore maintenant de façon étiquette.
Le folk song.
Le folk song, voilà, en ce qui concerne la musique, évidemment. Mais à l'origine, évidemment, la musique folklorique, c'était une musique d'abord qui appartient au peuple, pour faire une musique populaire,
ouais,
qui est sans origine connue ou définie, enfin sans origine arrêtable, et qui varie, qui change selon l'humour du chanteur ou selon le chanteur. C'est-à-dire qu'une chanson véritablement folklorique, en principe, il devrait exister autant de versions qu'il y a de chanteurs qu'elle chante. C'est ça d'ailleurs qui fait sa force, parce que le côté pur, chanson folklorique, c'est que chaque fois que ça passe d'une personne à l'autre, eh bien les morceaux qu'on n'aime pas, on les enlève, on en rajoute d'autres si on trouve qu'il en manque, alors ça finit un peu, c'est travailler comme un galet.
Mais quand tu dois jouer un roi, t'as jamais été roi dans ta vie, et tu le seras certainement jamais. Malgré tout, il faut que tu fouilles en toi tout ce qui peut être en rapport avec ça. Avec le pouvoir, avec le charme, avec la puissance, avec peut-être quelque chose du domaine de la violence, du pouvoir. Et après, il faut essayer de s'éloigner du cliché, de l'idée qu'on a, l'idée d'un roi. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois, le cliché qui vient en tête, une espèce de type qui se tient d'une certaine façon, avec une grosse voix, etc., etc., ben non, pas forcément. Il suffit de regarder... ben voilà, les rois dont on a des images, et même des images mouvantes, les rois de maintenant, quoi. Comment ils sont, comment ils parlent à leur peuple, comment ils parlent à leur sujet. C'est intéressant d'aller regarder ça aussi. Il faut puiser en soi, mais il faut aussi s'intéresser à plein de trucs, quoi. En fait, le plus tu as d'éléments, le plus tu fais ta tambouille, le mieux c'est. Parce que ça devient singulier. Ce qui est le plus important de tout pour moi, c'est être singulier. C'est faire quelque chose qui sorte du cliché. Parce que si ça ne correspond juste que ce à quoi on s'attend, bah ouais, ok, ce sera juste, mais on s'en fout que ce soit juste.
Ce qui me frappe dans tous les films, c'est la fausseté. Je sais que le public aime ce qui est faux, mais quand on lui donne une fois la vérité, il est stupéfait devant la vérité. Mais il se précipite vers le faux quand même.
Force de vouloir en fait mettre en avant et donc normaliser une forme d'authenticité, elle devient tout sauf authentique, parce que si elle peut être dupliquée, elle n'est plus authentique. Si je dis d'utiliser de la vaisselle chinée, etc., par principe, on n'aura pas forcément la même vaisselle chinée qu'à côté. Si on le fait nous-mêmes et qu'on va aller chiner dans les vide-greniers environnants, il y a aussi certaines vaisselles qu'on va retrouver naturellement dans certaines maisons en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Quand je dis pays, les pays ruraux, dans des régions, etc. Et on n'aura pas la même assiette vintage à Paris ou à Marseille. En revanche, si on commence à en faire une stratégie marketing, c'est-à-dire si on va le déléguer, on va aller acheter sur Internet des lots de vaisselle vintage à des nanas qui en font des collections, etc. Ou on va demander à un architecte d'intérieur d'imprimer un papier peint faux béton décrépit. Là, on est dans une sensation d'hyper-réalité, comme on le dit en marketing. Et du coup, cette notion d'hyper-réalité, elle peut faire qu'on va refuser ce qu'on nous propose. On va comprendre qu'il y a un décalage entre les valeurs soi-disant mises en avant et l'authenticité perçue par l'usager ou le consommateur. Nous, cet été, avec mon mari, on a monté une paillote de plage qui s'appelle la cabane à manger. Donc, clairement, c'est un phrasé qui est très à la mode actuellement et je ne vais pas m'en cacher. Je me suis posé la question, je me suis fait cette remarque en disant « bon, ça fait un peu bobo, c'est très à la mode, etc. » Et en même temps, je me suis dit que de toute façon, l'authenticité était justement là aussi, en fait, dans le lien avec le territoire. On vend des produits de producteurs locaux. Si les produits sont pas tous calibrés, si un jour le chèvre il est un peu plus frais ou un peu plus fait, si un jour les graines de coriandre ont germé et que du coup on a des fleurs et que c'est ça qu'on va mettre sur le plat, eh bien c'est pas grave, on s'adapte.
Les gens, tu peux pas leur mentir, tu peux pas insulter leur intelligence en leur expliquant tout, par exemple, en surjouant tout pour qu'ils comprennent bien tout. Ça va, me prends pas pour un imbécile, je déteste ça, moi. Mais dès qu'on me prend pour un con, dès qu'on insulte mon intelligence ou mon intuition, ou je ne sais pas, eh ben ça me vexe. Je me dis, ben ouais, c'était pas la peine de m'expliquer ça, j'avais compris. Donc des fois c'est au niveau de l'écriture, où tout est explicatif, des fois c'est au niveau du jeu, où c'est explicatif, où on me montre qu'on a de la peine, et donc on se dit, alors, peine égale larmes. Donc je vais pleurer. Et des acteurs et des actrices qui ont certains la capacité, comme ça, il y en a certains, ce sont des robinets, c'est génial. Ils ouvrent le robinet et bram. Et pour eux, ça suffit, puisqu'ils ont montré, ils ont signifié qu'ils avaient de la peine, puisqu'ils ont pleuré. Mais tu peux chialer toutes les larmes de ton corps si je sens pas que c'est vrai, tu m'insultes.
Comment tu fais pour chialer si t'as pas de peine? Tu peux pleurer comme ça sur commande sans y croire?
Certains, c'est vachement pratique, parce que c'est comme... C'est comme une espèce de rire. On se dit, putain, c'est difficile de rire. Ouais, mais il y a un truc mécanique. Au bout d'un moment, ton corps réagit. Tu vas rire en faisant... Et puis tu vas... C'est comme une sorte de moteur. Voilà. C'est comme un moteur que tu mets en route. Au bout d'un moment, ça va te masser. Ça va te chatouiller quelque part. Et bref, tu vas pouvoir vraiment prendre un vrai fou rire. Long et réel, et pas du tout dérangeant, malaisant, parce que vraiment on sera tu seras en train de rire. Et ben je pense que les larmes, il y a un truc comme ça. À un moment donné, certains ont la capacité d'ouvrir une vanne, et après le fait d'être mouillé, d'être sanglotant, d'avoir le souffle court, va les mettre dans un état de fragilité, de fébrilité, qui va les amener à avoir une peine au moins crédible.
Doit y avoir une espèce d'avancée dans l'inconnu constant, une révélation. Et vous connaissez le mot de Valéry, quand il allait travailler, il disait « je vais me faire des surprises ». Il ne disait pas « je vais travailler », il disait « je vais me faire des surprises », comme c'est joli. Eh bien, il faut se faire des surprises, mais... Il ne faut pas se faire des surprises par un acteur qui vient vous faire un petit numéro de théâtre. Faire des surprises parce que lui-même ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de vous révéler.
Notamment sur... je me souviens, il y avait une scène un peu de trouble entre ma partenaire et moi, et il était question que je l'embrasse. Et il était question que je l'embrasse après telle réplique. Bon, ben voilà, 3 ou 4 fois j'ai fait ça. Et puis je sentais bien que ça devenait mécanique, qu'elle savait que j'allais l'embrasser à ce moment-là, etc. Et on perdait un petit peu de cette fraîcheur et de ce trouble qui est très agréable, et qui est troublant aussi pour les gens, de se dire « Oh, ils sont mignons, allez, vite, vite, qu'il y a une espèce d'attente du baiser chez le spectateur, et puis enfin, quand ça arrive, c'est chouette. » Et bien je me suis dit « embrassons-la plus tard, ou pas, ou bien plus tôt. » Et du coup, le fait qu'elle... Au bout d'un moment, elle m'a dit « Wow, putain, c'est bizarre, tu m'as pas embrassé comme d'habitude. » Et le fait que ça ait été aléatoire, ça rend la chose plus réelle. Voilà. Et donc, systématiquement, je m'amusais à ne pas l'embrasser au même endroit, au même instant. Et il faut essayer de retrouver la vie, toujours, toujours, toujours. Chercher l'accident, enfin, trouver l'accident, ouais. L'espérer l'accident. Moi, j'adore ça... C'est quand il arrive un accident sur scène, tu peux soit décider que c'est une catastrophe et que tu t'en relèveras pas de cet accident, et donc plonger, mais t'as pas le droit, puisque de toute façon il faut bien aller au bout de la représentation. Soit tu te dis, oh c'est génial, je vais me servir de cet accident pour essayer d'aller ailleurs, trouver autre chose. Et ça existe, quoi, des accidents miraculeux. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Loin de là, le texte on le dit, hein, le texte on l'apprend. Et il n'y a pas à tortiller, quoi. On est respectueux de ce texte qui est écrit. Parce que ce n'est pas la vraie vie, c'est un texte qui est écrit. Mais malgré tout, on l'amène le plus possible à quelque chose de réel, où les gens peuvent se poser la question de se dire « Oh, mais est-ce qu'ils jouent vraiment ? Est-ce que leur... J'ai bien l'impression que la peine est réelle. »
Mais alors pour vous, la 20th Century Fox, c'est merveilleux. Parce que Hollywood, c'est un peu la ville de l'irréel.
De what?
Unreality. Of reality.
Of unreality.
De l'irréel? Dans quel sens? Les drames grecs de 600 avant Jésus-Christ étaient irréels? Le dieu Bacchus était irréel? C'est trop simple d'appeler irréel les drames et les films. Moi, je ne trouve pas Hollywood irréel. Je trouve seulement le trafic encombré.
Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séance, dans un habit, ma foi, saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons d'eux, la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne devant pas le rivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, enlevant ses fausses dentelles, elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton. En véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.